the trunk. Let that shit bang, a lot of bass in the trunk. A lot of niggas snitching, I ain't taking a lump. Trying to get locked up, making a bump. I hate niggas, got some aces like Trump. You get money, you can hate all you want. Real hip hop, is that what you want? Pussy motherfuckers ain't nothing for cunts. Fake ass bragging ain't nothing for stunts. Never fuck with pens, only fuck with the blunts. Bitch ass niggas, you can hate if you want. Run up on your block with the Beretta and dump. Pockets fat, yeah, related to clump. Five cat pink, a nigga, that ain't no front. 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 I spray niggas, I spit it hard, I raise niggas. Keep sleeping, miss the whole day, niggas. I do it for the real spitters, not the pill litter. Who sell a soul for a motherfucking meal, nigga. Lock and loaded, been devoted. If it's dope, nigga, I wrote it. So just let it soak in. New beginning, wheels are spinning. While niggas still faking the funk, and I'm still winning. Still winning. Yeah. Yeah, them boys is coming. Pay dues 100 miles and run them in my days. Standing on them cold blocks, slinging them cold rocks. Money bust out socks. Pops used to get high, wonder would he stop. But I'm in the streets too, and I got them black tops. Went from a matchbox straight to the stash box, then to the mic booth. This is the last stop, last stop, last stop, last stop, last stop. Nah, real hip hop, is that what you want? Pussy motherfuckers ain't nothing for cunts. Fake ass bragging ain't nothing for stunts. Never fuck with pens, only fuck with the blunts. Bitch ass niggas, you can hate if you want. Run up on your block with the Beretta and dump. Pockets fat, yeah, related to clump. Five cat pink, a nigga, that ain't no front. That ain't no front. That ain't no front. That ain't no front.
LFI.fr.
Écoutez RFI, les 5h en temps universel.
RFI Matin, Andréane Mélard.
Et 7h à Paris, RFI Matin commence maintenant. Très heureuse de vous retrouver avec l'ensemble de la rédaction. Nos invités ce matin, le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales à l'occasion du sommet international dédié, c'est à Paris. Maram Kéré nous parlera de ses grands projets pour le spatial sénégalais. Et il sera question d'espace aussi, notamment avec le ministre français délégué de l'Industrie, Sébastien Martin, avec nous dans une heure. D'abord, c'est le journal. Bonjour Julien Coquelin-M.
Bonjour Andréane. À la une de l'actualité, la promesse de Donald Trump en difficulté avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Il fait miroiter aux Américains un chèque de $5,000 chacun si les Républicains gardent leur majorité au Congrès. Reportage dans un instant dans les allées de la Convention nationale du parti lancée hier à Dallas. Le président américain de plus en plus gêné par les conséquences de sa guerre en Iran. Le baril de pétrole est repassé hier au-dessus des $100 et la guerre affecte de plus en plus l'économie des pétromonarchies. Le Qatar accuse pour la première fois un budget déficitaire. Dans ce journal également, le sommet spatial international qui continue. En Allemagne, le parti d'extrême droite AfD galvanisé par sa victoire de dimanche avant de nouvelles élections locales dans 10 jours. Et puis le début en beauté du PSG en Ligue des Champions. Victoire facile 6-1 hier soir face au Slovan Bratislava.
$5,000 pour chaque adulte américain s'il l'emporte en novembre.
Les promesses n'engagent que ceux qui les croient, mais c'est dire que la victoire est loin d'être acquise pour Donald Trump aux États-Unis. Il promet donc des dividendes aux électeurs américains si le parti républicain garde sa majorité au Congrès à l'issue des élections de mi-mandat. Un nouveau coup d'éclat du président américain au premier jour de la convention nationale du parti républicain organisée à Dallas. Un événement exceptionnel face à une situation difficile, car les politiques de Donald Trump lui coûte de plus en plus en popularité et ses candidats risquent bien d'en faire les frais, même si ses électeurs sur place restent convaincus d'avoir fait le bon choix. Reportage à Dallas de notre envoyé spécial Edouard Maille.
Dans cette foule habillée en rouge, de nombreuses personnes avec des t-shirts et des casquettes de Donald Trump. Et c'est pour voir le président que ces conservateurs ont fait le déplacement, comme Jack venu de l'Oklahoma.
Donald Trump suscite tellement plus d'enthousiasme que n'importe quel autre responsable politique que je connaisse.
Dans les coursives se croisent aussi de nombreux candidats. Aaron Delmar se présente comme lieutenant-gouverneur dans l'Illinois. Il ne voit aucun risque politique à se montrer à cette convention.
Il faut qu'on arrive à convaincre tous les électeurs. Donc c'est l'occasion de nous adresser à une partie de notre électorat, de l'écouter, d'échanger avec elle et d'entendre quels sont les sujets qui lui tiennent à cœur.
Et parmi les quelques États où la course au Sénat sera très serrée, il y a le Maine, où la républicaine Susan Collins joue sa réélection. Pourtant, l'une des voix les plus critiques du président au sein de son parti. Mais pour Lorraine Lepage, représentante du Maine au sein du parti, cette convention sera positive. Il y a une forte tradition d'électeurs indépendants dans le Maine, dit-elle. Mais elle ne pense pas que cette convention pose de risques, mais servira au contraire à galvaniser la foule. Et lors de sa prise de parole, Donald Trump a assumé sans retenue que ces élections seront un référendum sur sa présidence. Je cite, faites semblant que c'est moi qui suis sur le bulletin. Edouard Maille, Dallas, RFI.
L'offensive politique de Donald Trump de plus en plus handicapée politiquement, notamment par sa guerre en Iran et ses conséquences économiques. Il a pourtant assuré hier que le conflit prendrait fin immédiatement après les élections du mois de novembre. Estimant que les Iraniens ne peuvent pas tenir plus longtemps, mais tentent encore de peser sur le scrutin. Optimisme tempéré par les révélations du Wall Street Journal qui affirme que plusieurs de ses proches, dont le vice-président J.D. Vance, l'ont prévenu que la guerre pourrait durer jusqu'à la fin de son mandat.
Et pour l'instant, l'escalade continue entre Washington et Téhéran.
Le regain de tension a fait repasser hier le baril de pétrole au-delà des $100 pour la première fois depuis le mois de juillet et plus de 6 mois après le début du conflit. Ses conséquences économiques commencent à se faire sentir justement sur les finances des pétromonarchies. L'arrêt de la circulation dans le détroit d'Ormuz fait notamment un trou dans les économies du Qatar. À Riyad, correspondance régionale de Joseph Clément.
21,2 milliards de rials, soit 5 milliards d'euros, c'est le déficit budgétaire pour le deuxième trimestre 2026 tel qu'il a été présenté par le ministre qatari des Finances. 5 milliards d'euros, c'est deux fois plus qu'au premier trimestre de cette année. Et la cause, c'est le manque à gagner dans les ventes de gaz. Ormuz étant fermé, les méthaniers ne circulent pas et les clients du Qatar doivent annuler leurs commandes. L'année passée, l'émirat avait expédié 500 méthaniers vendre du gaz. Sur les 6 premiers mois de l'année 2026, il n'y en a eu que 18. Depuis janvier, ce sont donc 7 milliards de déficits qui pèsent sur les comptes qataris. Le pays n'avait compté que sur un déficit de 5 milliards pour l'ensemble de 2026. Le Qatar se lance dans la chasse aux économies, même si Doha ne prévoit pas de couper dans les salaires de ses fonctionnaires ou de réduire la taille de ses investissements, du moins pour le moment. La vente d'hydrocarbures au Qatar, dont les trois quarts sont du gaz, abonde 78% du budget de l'émirat. Le Qatar cherche encore la parade pour sortir de l'étranglement du détroit d'Ormuz. Joseph Clément, Riyad, RFI.
Et à Paris, il est 7h06 où le sommet spatial international se poursuit aujourd'hui.
Après des annonces d'investissement de plusieurs milliards d'euros hier, la séquence diplomatique aujourd'hui, en présence de 6 chefs d'État et des ministres d'une quinzaine de pays, la gouvernance mondiale sera notamment abordée lors des débats, alors que l'espace incarne un champ de compétition, mais aussi de conflictualité. Les satellites militaires occupent ainsi une place grandissante dans les guerres, Franck Alexandre.
La guerre a commencé dans l'espace. Février 2022, avant même de tirer le premier coup de feu, l'armée russe a visé le réseau de satellites Viasat utilisé par l'Ukraine. En haute altitude, les rivalités se manifestent depuis longtemps déjà. Novembre 2021, par exemple, à l'aide d'un missile, Moscou pulvérise l'un de ses vieux satellites. Depuis, des satellites kamikazes russes, conçus comme de véritables torpilles spatiales, ont été mis en orbite. D'autres sont dotés de lasers pour aveugler ou de brouilleurs pour perturber l'activité de satellites adverses. La guerre en orbite, menée par la Russie mais aussi par la Chine, passe aussi par une capacité de manœuvre. En s'approchant à quelques dizaines de kilomètres des compétiteurs, il s'agit souvent d'intimider ou d'espionner. Ces dernières années, les satellites russes Luch 1 puis 2 se sont ainsi collés à plusieurs satellites européens à des fins de renseignement. Pour lutter contre ce Far West, la défense collective de l'OTAN s'étend désormais au spatial et bien souvent la menace commence au sol sur les infrastructures et les pas de tir qui sont aussi la cible de fréquentes cyberattaques.
Franck Alexandre.
En Mauritanie, l'indignation chez les défenseurs des droits des femmes.
Après le viol d'une fillette de 7 ans dans les rues de la capitale Nouakchott samedi dernier par un homme d'une trentaine d'années, la police nationale a annoncé annoncé l'arrestation du présumé coupable. Les associations exigent désormais des sanctions sévères et davantage de protection pour les femmes et les enfants. La famille de la fillette a organisé hier une marche rapidement dispersée. Moussa Oumar Barry.
Une vingtaine de personnes et des membres d'organisations de défense des droits des femmes ont répondu à l'appel de la famille de la victime à la place de la Liberté hier en fin d'après-midi pour dénoncer les cas de viol qui se sont multipliés ces derniers temps, dénonce Zainab, l'une des manifestantes.
Nous sommes venus ici parce que nous voulons que ce cirque s'arrête. On ne peut pas continuer à compter les victimes, des femmes âgées, des adolescentes, des petites filles qui ont toute leur vie devant elles, sur lesquelles reposent les espoirs de leur famille pour finalement être victimes de violences atroces. Il y a celles qu'on brûle, celles qu'on jette dans des fosses, celles qu'on éventre. Ça ne peut pas continuer.
Le cas de la fillette a suscité des réactions d'indignation sur les réseaux sociaux. Le député Khalid Diallo plaide pour que le projet de loi dite Karama, adopté par le Conseil des ministres il y a des années, soit enfin voté.
Cette affaire de viol qui s'est passée dans notre pays, c'est quelque chose de très, 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 très grave. Et en tant que député, je suis parmi ceux qui portent un plaidoyer pour que la loi Karama soit voté au niveau de l'Assemblée nationale. Tout simplement, cette loi, elle va permettre aux femmes et à la fille mauritanienne d'être préservée et protégée par une loi qui lui donnera accès à obtenir gain de cause dans notre pays. Malheureusement, la femme mauritanienne n'est pas protégée.
Le centre de santé où a été admise la fillette rassure. Elle vient d'annoncer que l'état de santé de la victime s'améliore, démentant ainsi les rumeurs selon lesquelles elle aurait perdu la vie. Moussa Oumar Barry, Nouakchott, RFI.
Les jeunes filles menacées également de décrochage scolaire en raison des chocs climatiques extrêmes.
Un risque accru évoqué par l'UNICEF alors qu'elles assument des responsabilités supplémentaires au sein de leur foyer lors des catastrophes naturelles. L'alerte lancée par l'Agence de l'ONU pour l'enfance qui révélait hier les conséquences des aléas climatiques sur la scolarité des enfants du monde. En 2025, 171 millions d'entre eux ont connu de lourdes répercussions sur leur scolarité en raison des canicules, des tempêtes, des incendies rendus plus probable et plus fréquente par le réchauffement climatique causé par l'activité humaine. Cela représente un élève sur 10.
En Allemagne, le chancelier Friedrich Merz tente de reprendre la main.
Après la victoire historique de l'extrême droite aux élections locales dans la province de Saxe-Anhalt dimanche dernier, le parti AfD en tête du scrutin avec 44% des voix et en passe de diriger une région pour la première fois depuis la fin du nazisme. Vous n'obtiendrez la majorité nulle part en Allemagne, a lancé hier Friedrich Merz lors d'un débat au Bundestag. Alors que le parti d'extrême droite affiche désormais sa confiance pour deux autres élections régionales prévues le 20 septembre à Berlin et dans le Mecklembourg, l'AfD espère que la dynamique de dimanche dernier lui profitera. Son dernier meeting de campagne à Berlin, c'était hier soir, Pascal Thibault.
Je n'aurais jamais cru, lorsque nous avons fondé l'AfD en 2013, que nous serions un jour la force dominante en Allemagne. Même à Berlin, nous faisons jeu égal avec la CDU et le parti de gauche.
Wahnsinn! Kerstin Brinker, la tête de liste de l'AfD à Berlin, est gonflée à bloc après le succès historique de son parti dimanche dernier en Saxe-Anhalt. Ce quartier de tours et de bars de l'ex-RDA dans l'est de Berlin, où elle se produit, est un fief de l'AfD. Les jeunes sont assez nombreux, notamment ces primo-électeurs de 16 à 18 ans qui pour la première fois pourront voter à Berlin le 20 septembre, comme cette jeune fille, Lily, dont toute la famille vote AfD.
Je soutiens l'Allemagne. Je suis contre les étrangers qui nous attaquent à coups de couteau sans être poursuivis. J'ai peur pour mon pays.
Migration, criminalité, sécurité, c'est le triptyque qui revient très souvent lorsqu'on interroge les sympathisants AfD. Le parti devrait doubler son score à Berlin le 20 septembre et arrive en pole position. Il espère que le succès remporté en Saxe-Anhalt dimanche lui permettra d'atteindre un score encore meilleur le 20 septembre. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et puis du foot, Julien, et le très beau démarrage du tenant du titre en Ligue des Champions.
La victoire du PSG hier soir face au Slovan Bratislava 6 buts à 1. Après un début délicat en Ligue 1, les Parisiens lancent enfin leur saison et montrent à la concurrence qu'ils font bien partie des favoris à leur propre succession, Cédric de Oliveira.
Au quotidien, ça ne doit pas être simple de travailler avec Luis Enrique.
So my money is thin, and I still got bills to pay. But all in all, you've been right here with me. When I'm sinking low, you come through and lift me. It's nothing more than the love that you give me. Keeps me from drowning in tears, but you make me smile.
Your body, that it was just a piece of disagree. I think you're beautiful, but it's impossible to make you understand. But if you don't take my hand, I'll lose my mind. Said it was all make-believe, but I thought she said make-believes. And when she talked about a fall, I thought she talked about a season. I never understood at all. I thought she said make-believes, and when she talked about a fall, I thought she talked about Mark Eastman. I never understood at all. I never understood at all. I never
savoir sur votre ville et ses petits secrets, Radio Corbeau.
Allez, laissez tomber maintenant.
Radio Corbeau.
Ce serait plutôt de vous occuper de cette radio, elle est illégale.
T'as mon avis qu'à porter plainte.
Et sinon, changez. Pour le mix des cultures, c'est sur le 102.4 à Évreux, 95.9, dans le sud de l'Eure, et sur www.principactif.net.
Dans Bavla, un extrait, un de grand de crin, je crois que ce n'était pas fait exprès. Loin sous l'horizon, nous restons dans nos réseaux rusés. La vérité sort toujours de la bouche des goûts de nos eaux usées.
Nos vies sont accompagnées par les rappels.
Monte à la surface, attiré par les rats.
Dans le trou, toujours trop à l'étroit.
L'habitude de passer par les traces, échapper par les traces.